musical KDD. Ensuite, nous allons poursuivre avec la chronique du football. Ensuite, la chronique tradition des vœux. Par la suite, cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCV 99 FM, faisant suite à l'émission Les Entonnoirs sur le 99 FM RCV, l'émission La Mauvaise Herbe. Alors, eh bien, La Mauvaise Herbe est une émission d'environnement qui se fait le pendant radiophonique de l'association EDA, Environnement et Développement Alternatif. Alors, comme vous le savez, l'émission a lieu en quinzaine, le dimanche, de 14h à 15h sur les ondes du 99 FM RCV. Et vous pouvez nous appeler, puisqu'aujourd'hui nous sommes en direct pour une émission à brève, revue de l'actualité environnementale, au 03 20 54 54 00, pour nous faire part de vos coups de gueule, de vos brèves également, de vos réflexions tout simplement sur l'environnement et le développement durable. Voilà, donc... comme vous le savez, donc émission en quinzaine. Aujourd'hui, c'est des brèves. Et puis, une prochaine fois, sans doute, ce sera une émission à thème. On vous rappelle également donc le site web de RCV, www.rcv-lille.com. Et puis également, sachez qu'il est possible de télécharger les émissions de La Mauvaise Herbe sur le site web de La Mauvaise Herbe en tapant tout simplement sur un moteur de recherche audioblog Arte La Mauvaise Herbe. Et vous arrivez donc sur le site web de La Mauvaise Herbe. Vous pouvez télécharger donc les émissions de l'année 2009, de l'année 2008 en archive, et les réécouter bien tranquillement donc si vous n'avez pas eu l'occasion de nous écouter en direct. Voilà, donc avant de démarrer l'émission, comme d'habitude, une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour démarrer donc ces brèves.
And a bottle and a box and a crystal stone.
Tiens, voilà la pluie. Ah, que sale temps. Où est-il l'été? L'été, où est-il?
Oh là, mais que vois-je apparaître en regardant à ma fenêtre? Là, cette dame qui vole en voile de nylon et qui tient un bâton tout plein rempli d'étoiles. Si cette dame est flic, l'est au moins générale.
Non,
bonjour, madame la fée.
Mon Dieu, qu'il ait bien élevé cet enfant. Je veux le récompenser. Que voudrais-tu? Formule un souhait, j'ai le pouvoir de l'exaucer.
Vrai?
Vrai?
Ben, je voudrais qu'on se paie du bon temps.
Du bon temps?
Du bon temps.
Qu'entends-tu par là, mon enfant?
Ben, je voudrais avancer l'été. Qu'il fasse avant la Saint-Jambon.
Jambon.
Qu'il fasse beau dès le 10 juin.
10 juin.
Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer.
C'est beau d'aimer.
Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti? Qu'il fasse chaud des méchouis.
Méchouis.
Puis qu'il fasse beau des paquebots.
Paquebots.
Que le soleil tape en marteau.
Marteau.
Ça serait bien qu'il fasse des l'hiver beau. Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti? Si de plus un climat chaussette.
Ma chaussette.
Cet en été l'automnelier.
Tonnelier.
Tous les étés les uns aux autres. Ça serait le genre de temps qu'on bénit. Surtout qu'il n'y aurait plus cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti?
Mon enfant, ne sois pas haletant.
Saletant.
Ton joli souhait m'a beaucoup plu.
Beaucoup plus.
Et je vais pouvoir l'exaucer.
Saucer.
Oui, je peux, oui, ce pouvoir,
je l'ai.
Abracadabra, c'est ce pluie. Soleil d'été resplendit.
Oh, miracle, un astre éclatant irradie rose au firmament. Ah, dis donc, elle affirme, papa. C'est madame la fée qui a fait ça.
Alors,
oh oui, madame la fée.
Charmante enfant.
Merci, madame la fée.
Et c'est poli, adieu, mon enfant.
Au revoir, madame la fée.
Charmant.
Et le bonjour à monsieur la fée.
Crétin, tiens.
Tiens, là, la pluie.
Voilà, donc je vous rappelle que vous êtes sur le site, pas sur le site, pardon, que vous écoutez tout simplement donc La Mauvaise Herbe. Il est donc à peu près 14h10, on est ensemble pour une heure sur les ondes du 99 FM RCV et aujourd'hui c'est une émission à brève. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Donc tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors j'ai lu quelque chose qui m'a un peu révoltée. Bon, c'est pas ma lecture quotidienne, mais je suis tombée sur un article dans Mode et Travaux. C'est une amie qui m'en avait parlé parce que ça lui posait question sur ses pratiques écologiques. C'est-à-dire que elle a lu cet article et elle s'est remise en cause un peu sur sa façon de faire. Donc Elle m'en a parlé, puis j'avais la volonté pour lui répondre de déconstruire un petit peu l'article. Donc c'est un article qui a pour titre « Éco-citoyen raisonné », être un éco-citoyen raisonné. En fait, adopter des gestes éco-citoyens est important à condition de ne pas tomber dans l'excès sous peine de polluer encore plus. Donc en fait, on nous dit que parfois par la volonté de ne pas polluer, on pollue encore plus. Et je vais montrer des exemples pour parce que je trouve il y a des choses vraiment hallucinantes. On nous dit que utiliser des sacs en papier, donc c'est bien parce que fabriqué avec du bois, 2 à 5 ça réduit la poussière, ils ne peuvent pas obturer le ventre d'une tortue ni empêcher un feuillage de pousser. Mais seulement leur fabrication demande 90% de plus de gaz à effet de serre que les sacs en plastique. Donc tout d'abord j'ai fait quelques petites recherches et c'est faux parce que en fait le papier ça produit moins de gaz à effet de serre que le plastique. Avec 30% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, le papier se comporte avec beaucoup plus de naturel. Évidemment, quand il atterrit en décharge, il émet par fermentation du méthane, un gaz à effet de serre très nocif. Et en fait, tous les sacs en papier atterrissent dans des décharges, ce qui représente 27% des déchets dans les décharges, contre 62% pour les sacs en plastique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au lieu de nous décourager à utiliser des sacs en papier, pourquoi pas conseiller de prendre un cabas pour faire ses courses, ou au lieu de déconstruire complètement une idée comme quoi le sac en papier serait bien, mais finalement ça n'a pas tant de répercussions, donc pourquoi pas continuer à utiliser des sacs en plastique. Je trouve ça hallucinant que dans un magazine Mode et Travaux qui est sur les pratiques quotidiennes, que des femmes lisent, qu'on ne conseille pas de prendre un cabas, par exemple.
Ouais, effectivement, là, je pense que tu as tout à fait raison. Et puis, c'est des magazines qui sont lus quand même par énormément de gens, je pense. Hein.
Oui, je ne sais pas le tout. J'ai pas fait la petite recherche.
Non, on peut se poser la question sur l'impact, effectivement, d'un tel article dans ce type de magazine. Hein.
Ouais, il y a d'autres exemples. Alors, privilégier le papier recyclé contribue à économiser l'énergie, réduire les déchets et ralentir la déforestation. Ok, là-dessus, donc la journaliste fait un petit point sur le bien fondé du papier recyclé. Mais à la fin, elle nuance, elle dit que l'achat de papier recyclé de qualité maintient la prédominance du papier à base de bois au détriment d'alternatives comme le chanvre ou le kenaf. Donc, j'ai fait quelques petites recherches. Et en fait, au lieu de nous culpabiliser, il faut quand même se rendre compte de la réalité. C'est-à-dire qu'en Europe, en dépit de grands efforts pour utiliser des plantes annuelles pour fabriquer le papier, la consommation ne décolle pas. On est plus préoccupé en Europe par les questions climatiques que par le devoir d'utiliser des plantes annuelles pour fabriquer du papier. En fait, ça ne représente pas beaucoup d'enjeux. Ces sources de plantes annuelles sont surtout présentes en Asie. Donc, c'est complètement infondé de culpabiliser les gens sur leur consommation de papier à base de bois, alors que les ressources en bois sont plus locales pour nous, plutôt qu'en Asie, avec le chanvre et le kenaf. Donc voilà, j'avais quelques exemples comme ça, et pourquoi pas aussi dans ces articles un petit peu de consommation, pourquoi pas essayer de conseiller des pratiques comme arrêter de recevoir un annuaire en papier, ou enfin ça c'est beaucoup plus abordable que culpabiliser sur des marchés qui sont pas du tout à notre portée. Enfin, pourquoi pas conseiller par exemple d'aller sur le site www.recevoirmesannuaires.pagejeune.fr où on peut cliquer et se désabonner pour recevoir les annuaires en papier. Enfin, c'est quelque chose de tout bête et tout abordable pour pas mal de gens.
On peut également mettre un autocollant anti-pub aussi hein, sur notre
oui,
porte.
Oui, exactement.
Ce qui permet en fait de ne plus recevoir les kilos de papier effectivement qu'on reçoit chaque mois, alors qu'on n'en a pas franchement non plus besoin. C'est vraiment un acte aussi militant et complètement respectueux de la planète. Alors juste avec un tout petit bémol, c'est qu'il y a quand même beaucoup de villes, malheureusement, quand on a une attitude comme ça éco-citoyenne, on met par exemple un autocollant anti-pub sur sa porte, et il y a beaucoup de villes en fait pour faire des économies, ils demandent en fait à ce que les bulletins municipaux ou les bulletins régionaux par exemple, ou les différentes informations concernant les activités de la commune soient distribuées par un distributeur de pub, donc en même temps que la pub. Du coup, celui qui a un autocollant anti-pub en fait sur sa porte, eh ben, il ne reçoit plus les informations donc de sa commune. Et ça, c'est quand même très très embêtant. Et donc voilà, c'est un petit peu le bémol de cette attitude. Alors on veut être éco-citoyen et en réalité, finalement on a simplement quelque chose de négatif qui se passe parce que on n'a plus ces informations. Donc évidemment, il faut continuer à mettre cet autocollant anti-pub, hein, c'est clair. Mais il faut aussi faire attention à ça et faire remonter de toute façon les informations auprès de sa mairie, par exemple, si on a ce genre de désagrément.
Mmh. Peut-être que Perrine a...
Enfin, je parle d'expérience, hein, parce que ça m'est
arrivé. Oui, c'est ce que j'allais dire. On voit que tu parles d'expérience, et c'est vrai que moi, j'ai le même souci. Enfin, moi, j'habite à Marcq-en-Barœul, et je sais qu'il y avait un salon un samedi sur la bio, avec des films, mm-hmm. qui est des documentaires, etc. Et moi, j'avais pas eu le programme, et quand je me suis rendue à cette manifestation, on m'a dit « Ah mais si, les programmes ont été envoyés dans toutes les boîtes, enfin ont été déposés dans toutes les boîtes aux lettres et tout ça. » Et effectivement, moi, je ne l'ai pas eu parce que j'avais ce stop pub sur ma boîte. Mais bon, je n'ai pas enlevé mon stop pub, hein, je pense que...
Non, il faut le garder, ça c'est sûr, mais il faut faire remonter, en fait, parce qu'on n'est pas tout seul à mettre un autocollant stop pub. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui ont fait cet acte éco-citoyen. Et par contre, effectivement, il faut être conscient que du coup on n'a pas les informations ou pas souvent, et donc faut faire remonter tout ça à la mairie de façon à ce qu'ils gèrent en fait la distribution des informations autrement, quoi.
Qui est un mode de...
Faut pas être pénalisé parce qu'on est éco-citoyen, ça serait vraiment bête.
Faut vraiment que que la mairie fasse la différence entre ce qui est publicité et ce qui est information.
Voilà.
Et on se rend compte que des fois c'est la différence est très très difficile à voir, quoi, cibler. Hein.
Et c'est une question de coût en fait. Hein. C'est
bien
c'est
sûr.
Vraiment.
Bien sûr.
C'est vraiment ce problème-là qui pose question, quoi.
Voilà, moi je voulais réagir là-dessus parce que j'ai l'impression que cet article veut nous déculpabiliser les femmes au foyer, et c'est aussi surfer un peu sur la vague. Comme on en parle beaucoup, d'attitude écologique dans l'entourage, dans les médias. C'est aussi prendre un contre-pied pour être lu, ou bien je voulais réagir là-dessus à ce niveau-là. Mais Perrine, toi tu vas élargir un petit peu la question parce que t'as lu quelque chose. Pourquoi on change pas nos pratiques?
J'en parlerai tout à l'heure, mais effectivement moi je vais vous parler de moi il y a une interrogation qui me turlupine énormément. C'est que malgré toutes les connaissances qu'on a des enjeux climatiques aujourd'hui, on a l'impression que les comportements des citoyens ne changent pas. Donc voilà, donc ça j'en reparlerai tout à l'heure plutôt vers la fin, la deuxième partie de l'émission. Mais je me suis vraiment posé la question de effectivement pourquoi on ne change pas, quoi. Pourquoi on ne change pas nos comportements alors que le changement est inévitable et puis indispensable pour notre planète. J'en reparlerai.
Donc je crois que Valérie, avec ces deux articles là dont tu nous as fait part, tu entames à la mauvaise herbe une série de petites critiques par rapport à des articles qu'on trouve dans des magazines grande distribution et qui risquent d'avoir un impact fort, ou qui ont sans doute déjà un impact fort sur des milliers voire des millions de personnes, et en particulier des femmes qui peuvent lire ce type de magazine.
Exactement. La suite au prochain épisode.
D'accord.
Parce que parfois je vais chez mes parents, je trouve des magazines un peu dans ce genre-là, comme Femina aussi. La prochaine fois, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler.
Il y a beaucoup de femmes en fait aujourd'hui à la mauvaise herbe. Je pense qu'on pourrait faire exactement la même critique avec des magazines plutôt destinés aux hommes. Alors on va pas faire de préjugés ni de choses un peu faciles, mais enfin c'est souvent des magazines qui parlent de voitures, de sport et choses comme ça. Et en particulier sur les voitures, je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire entre la voiture et puis les aspects développement durable, quoi.
Oula, oui.
Voilà, donc avis aux amateurs, si vous avez éventuellement des brèves auditeurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, on va prendre maintenant Sylvain au téléphone. Sylvain, est-ce que tu nous entends de ton Avesnois? Allô, Sylvain ?
Je t'entends très, très mal.
Très mal, bon, d'accord. Il faut donc que je parle plus fort ?
Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah, voilà.
Alors, voilà, là c'est bon, donc on t'entend.
Ça va un petit peu mieux, je vais éteindre Internet là, parce que je vous suis en même temps, donc vous m'entendez bien ?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Très bien, donc oui, il y a un petit décalage entre Internet et...
Bah oui, il y a toujours les 30 secondes en fait, hein, qui font que oui, c'est pas facile, voilà. Bonjour Sylvain, donc tu nous parles de quoi toi aujourd'hui ?
Alors, je comptais vous parler, en fait, d'un article sur la biodiversité, en fait, un article du 23. Et en même temps, je voulais réagir par rapport à ce que je venais d'entendre, donc par le biais de Valérie et Perrine et toi-même, pour dire qu'effectivement, j'avais eu aussi cette information comme quoi les sacs en papier étaient plus problématiques pour l'environnement que les sacs en plastique, et c'est à la ferme du Sarc que j'avais vu ça en fait. Donc je suis content que Valérie ait pu parler de cet article, parce que moi-même je me posais la question de savoir pourquoi les sacs en papier étaient plus embêtants que les sacs en plastique. Donc voilà. Et sur les pubs également, je voulais réagir, hein, parce que j'ai toujours envie de réagir par rapport à ce que j'entends. Sur les pubs, effectivement, c'est le cas également de la Madeleine, je voudrais le préciser, qui distribue effectivement avec ses publicités les informations en fait de la ville, et on a exactement le même problème à la Madeleine par exemple. Pour ceux qui habitent là-bas, n'hésitez pas à faire remonter comme vous l'avez dit déjà, sachant qu'ici à Ténières-en-Sirage, donc au fin fond de la Vénois, on a l'information en fait de la ville. Il y a 500 habitants, donc ça change aussi. On a l'information de la ville à part en fait des publicités, donc comme quoi c'est pas impossible. Donc voilà, petite introduction par rapport à ce que vous avez dit. Donc moi je vais enchaîner sur la biodiversité. Donc j'ai vu un article sur le 23. Donc le 23 c'est le journal de la MRES, hein, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui paraît quatre fois par an, hein, je pense, hein. Là le 23 de l'hiver en fait 2009-2010 vient de sortir, et il y a plein d'articles très très intéressants que vous pouvez retrouver très très facilement en fait sur le site en fait de la MRES, hein, MRES-asso.org, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez même le consulter directement sur le site de la MRES, parce qu'il y a une sorte de logiciel en fait de lecture qui se fait de plus en plus souvent maintenant sur Internet, où on peut lire et passer les pages en fait directement sur votre ordinateur en fait, hein. Ça permet aussi peut-être de pas imprimer en fait des numéros de 23. Donc voilà, je suis tombé sur un article en fait de Émile Vivier de Nord Écologie Conseil sur la biodiversité, et notamment sur des questionnements, des réflexions satiriques et désabusées sur la biodiversité. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais faire part de cet article en fait à nos auditeurs. Donc je commence la lecture. La biodiversité, on en parle beaucoup, mais sait-on ce que c'est ? Beaucoup d'entre nous ont vu et entendu le film Homme de Yann Arthus-Bertrand. Certains ont peut-être eu la patience de regarder aussi les commentaires après la projection du film. C'est là qu'on a entendu un spectateur poser la question: qu'est-ce que la biodiversité ? Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ce film et ont déjà vu également ses commentaires. Le film de Yann Arthus-Bertrand est très complet, très dense et très documenté. On y a parlé de presque tout ce qui touche à la nature et à l'environnement sur notre planète. Il semble que des spectateurs n'aient pourtant pas très bien compris. Examinons les choses dans un esprit un peu plus simple. Les ours blancs, par exemple, ils disparaissent avec les banquises sur lesquelles ils vivent. Mais quelle importance, finalement ? Ce sont des animaux dangereux. À quoi servent-ils ? À rien pour nous. Ils vivent là-bas, dans le froid, au bout du monde. Il n'y en a pas ici, et on vit bien sans eux. C'est un élément de biodiversité inutile. On peut s'en passer. Prenons le cas des éléphants. Leur nombre va terriblement en diminuant. Vers 1900, il y en avait des troupeaux de 1000 individus et plus de 2 millions dans toute l'Afrique subsaharienne. En 86, il n'en subsistait que 400 000, actuellement encore beaucoup moins. L'éléphant est pourtant un élément emblématique de la biodiversité. Au Kenya, il y a du manioc, du café et des éléphants. Ils sont repoussés et chassés, moins pour la récupération de leur défense en ivoire que pour les dégâts qu'ils font sur leur passage. Alors pourquoi le conserver ? Vous voyez des éléphants dans nos champs de betteraves ou dans nos champs de blé? Pas du tout. On pourrait prendre une multitude d'autres exemples, les tigres, les morses, les hippopotames, les girafes, les gorilles, les panthères. La plupart du temps, ces animaux sont dangereux pour l'homme et ils saccagent les cultures qui leur permettent de vivre. C'est une biodiversité dont on pourrait alors se passer et que beaucoup d'hommes considèrent comme à éliminer. Et que faisons-nous chez nous? Il y a des loups. Enfin, il y avait des loups. Il y a encore un petit peu de loups, mais il y avait beaucoup plus de loups avant. Il y avait également beaucoup plus d'ours. Nous les avons éliminés. Quelques amis des animaux ont tenté de les réintroduire, mais on a vu les protestations, les manifestations des éleveurs de moutons, des chasseurs qui les abattent, même si c'est interdit. Ces ours, ces loups, en réalité, on n'en a pas besoin. Ils ne sont là que pour la décoration, que pour une biodiversité qui n'intéresse que les naturalistes. Prenons le cas des petits carnivores de chez nous, les belettes, fuines et putois. Ils font partie de cette biodiversité et pourtant ils sont considérés comme nuisibles. Au niveau des oiseaux, c'est la même chose, sinon pire. Tous les ans, au printemps, je voyais arriver des grives dans mon jardin et mes haies. L'an dernier, je n'en ai vu que deux ou trois seulement, et cette année, aucune. Et les moineaux, ces braves piafs, on n'en voit plus, mais à quoi servait-il? À rien. Alors pourquoi s'en plaindre? C'est de la biodiversité inutile. L'idéal, une nature propre sans animaux ni plantes inutiles, nuisibles ou dangereuses, l'homme serait-il le seul être vivant à avoir droit à la vie? Bientôt ne restera-t-il que des hommes en élevage industriel comme des poulets ou des porcs en batterie? Quelle belle vie pour les hommes de demain. Donc voilà un petit article, bien sûr, très très satirique et très ironique en fait, qui m'a moi beaucoup interpellé, qui pose pas mal de questions. Sur effectivement la biodiversité et l'utilité en fait de la biodiversité. Et la chose à laquelle ça me fait penser directement, c'est une émission très très ancienne, alors je crois que ça doit être 2004, quelque chose comme ça. Valérie va sans doute confirmer.
Je vois à quoi tu penses déjà.
Ah, vas-y.
Je pense que c'était une émission, enfin bon, on avait fait une émission sur la biodiversité, mais on a fait aussi une émission sur le loup en particulier.
Alors il y a celle-là effectivement, mais je pensais à celle de Florent Lamy.
Oui, c'est ça, sur la biodiversité, ouais.
Celle-là, elle était vraiment très très intéressante et Florent Lamiot avait pris un très très bon exemple, un très bon comparatif avec les œuvres d'art en fait, la culture en fait de l'homme, c'est-à-dire que si on n'a pas besoin effectivement de l'ours blanc, c'est vrai que quelque part on a beau réfléchir, s'il disparaît, on va pas en mourir directement, mais on va pas en mourir non plus si jamais on détruit la Joconde. C'est à peu près la même réflexion. C'est un intérêt en fait culturel et voire du patrimoine mondial quasiment. Et on pourrait détruire tous les œuvres d'art, on n'en mourrait pas non plus, quoi. Donc voilà, on pourrait faire ce parallèle et je trouvais que ce parallèle était très très parlant et disait bien ce qu'il en était au sujet de l'intérêt de cette biodiversité. Donc voilà, pour ce petit article, j'espère que ça éveillera plein de réflexions et de réactions parmi nos auditeurs.
Oui, non, mais tu as tout à fait bien posé la question de l'utilité de la biodiversité. Donc tu as parlé surtout des grands animaux, mais quelle est l'utilité de l'araignée dans la maison, de la chauve-souris, du papillon, etc., des fleurs, des abeilles. Je crois qu'il y a des utilités pour lesquelles on a des réponses. Effectivement, pour les grands animaux, en particulier ceux qui sont loin de chez nous, on peut se poser un petit peu la question, mais la comparaison avec les œuvres d'art, voilà, il faut pas oublier qu'on est un tout et qu'on vit tous ensemble sur une même planète et que voilà, il faut raisonner global et écosystème en fait. Hein, c'est un peu ça la réponse, je pense.
Exactement. Oui.
Simplement, donc pour réagir sur ce que tu viens de dire, oui. L'année 2010, eh bien, c'est l'année de la biodiversité. Alors, je ne sais pas si tu le sais. Ça commence en fait, c'est sous l'égide de l'ONU que démarre donc au mois de janvier 2010 l'année de la biodiversité. Alors juste un petit mot quand même, les espèces menacées en Europe par exemple, 44% des mammifères, 43% des oiseaux, 45% des reptiles, 30% des amphibiens, 52% des poissons d'eau douce, 48% des papillons, 53% des plantes. Voilà, ça fait quand même des chiffres qui font un petit peu peur et c'est vrai que même si on a aujourd'hui certainement découvert que très peu
des animaux et des plantes et qu'il en reste encore beaucoup à découvrir ou qui sont mal identifiés, il faut bien sûr faire attention à tout ça parce que cette biodiversité elle a son utilité. On peut prendre juste l'exemple des médicaments et ça on sait très bien qu'il y a bon nombre de lobbies pharmaceutiques qui arpentent toutes les forêts de toute la planète pour se dépêcher de découvrir tous les gènes d'utilité avant que peut-être il ne reste plus beaucoup de cette diversité. Voilà, mais bon, on peut aussi se poser la question sur cette année 2010 de la biodiversité. Est-ce que, parce que l'ONU décrète biodiversité pour l'année 2010, est-ce que ça va changer quelque chose dans nos comportements et dans les comportements de ceux qui arpentent justement la planète pour la recherche de toutes ces molécules qu'ils brevettent par la suite? C'est une question débat.
De quoi être fataliste. Ces grands rendez-vous sur l'environnement qui malheureusement ne donnent pas grand-chose.
Voilà, mais bon, nous sommes optimistes, hein, on peut faire quelque chose et c'est par la sensibilisation aussi qu'on peut changer évidemment les esprits des gens. Voilà.
Voilà, voilà. peut-être une dernière info, allez, je la donne parce que j'ai vraiment envie de la donner. C'est toujours sur le thème de la biodiversité, c'est très rapide. En fait, la CMNF, qui est une association, la coordination mammalogique du nord de la France, qui donc, comme son nom l'indique, s'occupe des mammifères en fait dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec plusieurs thématiques, les chauves-souris, les mammifères marins depuis très longtemps, et plus récemment les muscardins, hein, donc des petits rongeurs, et les écureuils. Et justement, il y a une grande enquête écureuil roux en fait actuellement qui dure depuis, qui a commencé en 2009 hein, et qui va durer jusqu'à 2011, dont l'objectif est très simple en fait, on demande aux gens, aux citoyens en fait, d'informer en fait sur le site internet de la CMNF, d'informer la CMNF à chaque fois qu'on voit un écureuil dans notre jardin, dans la nature, etc. C'est tout simple, il suffit d'aller sur un site internet www.jti-écureuil.fr, jti-écureuil.fr, et là vous allez être guidé assez simplement. Vous allez pouvoir expliquer où est-ce que vous avez vu votre écureuil, qu'est-ce qu'il était en train de faire, où est-ce que vous êtes localisé précisément, etc., etc. Et ça permet d'avoir en fait une carte générale de tout le pointage en fait, hein, en gros, de tous les écureuils vus dans la région Nord-Pas-de-Calais, et ça permettra à la CMNF sans doute d'analyser ces données pour évaluer un petit peu l'état des populations d'écureuils dans la région, tout simplement. Donc voilà, si vous avez vu un écureuil un moment ou un autre en balade n'importe où, allez sur le site jtiecureuil.fr. Vous pouvez aussi le faire par boîte postale en fait, le mieux c'est le site internet hein, si vous l'avez pas, sinon il suffit de l'envoyer à la CMNF. On donnera peut-être l'adresse pour les gens qui sont intéressés, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué d'écrire la CAPSA, mais sachez que vous allez avoir toutes les informations sur le site internet, donc jti-écureuil.fr. voilà.
Merci Sylvain, à tout à l'heure sans doute pour quelques autres brèves. Il est temps de faire une petite pause musicale. Voilà, et on se retrouve donc juste après pour poursuivre l'émission.
Je ne vais pas te laisser que des égratignures. Je ne vais pas te laisser que des points de suture. Je ne vais pas te laisser creuser ta sépulture. Je ne vais pas te laisser le soin de m'avoir à l'usure. Je ne vais pas t'étaler que des déconfitures. Je ne vais pas te laisser à la sous-préfecture. Je ne vais pas te laisser la moindre ouverture. Je ne vais pas regarder par le trou de la serrure. Je ne vais pas te laisser que des égratignures. Que tu me connaissais, mais je suis qu'une ordure. Je ne vais pas te laisser toutes les couvertures. Je ne vais pas te laisser faire monter la température. Je ne vais pas te laisser que des coups ceinture. Je ne vais pas te laisser t'engouffrer dans les fissures. Je ne vais pas te laisser que des éclaboussures. Je ne vais pas te laisser de petites meurtrissures. Je ne vais pas te laisser que de la moisissure. Je ne vais pas te laisser dans la demi-mesure. Je ne vais pas te laisser te vautrer dans la luxure. Je ne vais pas te laisser te camoufler sous ton armure. Je ne vais pas te laisser que des égratignures. Je me connaissais, mais je suis qu'une ordure. Je ne vais pas te laisser toutes les couvertures. Je ne vais pas te laisser faire monter la température. Je ne vais pas te laisser monter sur la toiture. Je ne vais pas te laisser descendre les ordures. Je ne vais pas te laisser payer la facture. Je ne vais pas te laisser te glisser sous les couvertures. Je ne vais pas te laisser ouvrir ta fermeture. Je ne vais pas te laisser que des mésaventures. Je ne vais pas te laisser dormir au fond de ma voiture. Je ne vais pas te laisser que des chansons d'amour. Je ne vais pas te laisser que des égratignures. Je suis qu'une ordure. Je ne vais pas te laisser tirer les couvertures. Je ne vais pas te laisser faire monter la température.
Voilà, donc on reprend le cours de l'émission La Mauvaise Herbe sur le 99 FM RCV en compagnie de Perrine.
Oui, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, moi je suis tombée en fait sur un dossier de l'âge de fer qui s'intitule Pourquoi on ne change pas. Et en fait, c'est une question moi qui me tient à cœur parce que je me sens, c'est vrai, très impliquée dans toutes ces problématiques d'environnement, etc. Et je me dis, mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sauver la planète, etc. Je me pose des grandes questions existentielles. Et j'ai l'impression, des fois, qu'autour de moi, tout le monde s'en fout, les gens ne changent pas. Alors qu'aujourd'hui, personne n'ignore que l'activité humaine est à l'origine des dérèglements climatiques et que les dérèglements climatiques ont des effets extrêmement négatifs pour notre pauvre planète. Donc voilà, j'ai lu le dossier, effectivement, il y a quelques points qui ont répondu à mes interrogations. Donc la première remarque, c'est donc c'est vrai que on se rend compte qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'informations sur le dérèglement climatique, etc. Et en contrepartie, effectivement, on voit que il y a une hausse des ventes des ampoules basse consommation, que la bio devient très à la mode, donc les gens n'achètent plus, le secteur de la bio est en pleine croissance, etc. Donc on pourrait se dire tant mieux, mais parallèlement, les transports aériens sont en vogue, tout le monde voyage en avion, le secteur, la vente de CAC 4 se porte encore pas si mal. Donc voilà, donc pourquoi ? Enfin, il y a des paradoxes quand même qui m'interpellent. Et donc il y a un article sur sur les vecteurs du changement, donc de notre notre comportement, qui nous explique en fait quels sont les effets qui font que l'individu va changer son comportement de tous les jours. Donc on commence par le siècle des Lumières, en fait, qui expliquait que l'homme est un être rationnel et que à partir du moment où il a des éléments de preuve comme quoi il doit changer son comportement, vu que l'homme est raisonnable, il va changer son comportement. Donc en fait, on se rend compte que, par exemple, si on peut prouver par A plus B que l'Antarctique est en train de disparaître. Aujourd'hui, on sait, il y a des scientifiques qui montrent bien qu'il y a 70% de la superficie de la banquise qui est en fait en glace saisonnière et non plus en glace pérenne. Donc on sait que le niveau des mers augmente, depuis 100 ans. Etc. Il y a plein de choses qu'on sait qui ont été prouvées par les scientifiques et pourtant ces chiffres au mieux nous impressionnent, mais ça reste quand même assez vague et on se rend compte qu'en fait notre censée rationalité n'entraîne pas de changement sur nos comportements. Donc en fait, il y a d'autres études depuis le siècle des Lumières qui ont montré que l'homme ne changeait pas seulement par raison, mais qu'il pouvait aussi changer avec le vecteur émotionnel. Et par exemple, aujourd'hui, on le remarque très bien avec l'exemple d'Haïti qui est très récent. C'est vrai qu'à la télé, dans les informations, tout ça, on entend beaucoup l'histoire de monsieur Lambda qui a tout perdu à Haïti, sa famille, sa maison. Donc voilà. Parallèlement, on va entendre que sur la banquise, les petits oursons n'ont plus d'habitat naturel. Donc on est vraiment touché émotionnellement. Donc dans un court terme, il va y avoir des réactions immédiates. Et pour reprendre l'exemple d'Haïti, on voit l'engouement des gens qui donnent, qui font des dons. On peut voir aussi pour que les gens ont par exemple acheté leurs cadeaux exceptionnellement par le biais du commerce équitable, etc. Donc ça, les chocs émotionnels en fait entraînent effectivement des changements de comportement, mais peut-être des changements de comportement qui sont à court terme et non définitifs. Donc c'est pas des changements fondamentaux. Donc il y a le vecteur rationnel qui est finalement n'entraîne pas de changement, le vecteur émotionnel non plus. Donc quel choc en fait il faut que l'homme ait pour qu'il se dise il faudrait peut-être que je change mon comportement. Alors là, l'article finit avec un autre vecteur qu'il appelle le vecteur affectif. Et en fait, c'est-à-dire que alors que le choc émotionnel nous émeut et nous fait réagir dans l'instant, le choc affectif nous concerne. Donc avec le choc affectif, l'homme se sent vraiment concerné, investi dans la cause. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se dit « Ah, mais effectivement, ça touche mon voisin, ça touche mon chez-moi, etc. » quelque chose. Donc, pour communiquer efficacement sur la nécessité de modifier nos comportements, nous devons mettre l'accent donc sur nos liens personnels et individuels avec la situation climatique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le fait d'évoquer les problèmes de l'environnement ou de dire il faut sauver la planète et tout ça, ça reste très global et que les personnes, en entendant ces témoignages-là, ne réagissent pas, ne se sentent pas impliquées personnellement dans ces grands combats. Donc il faut ramener les enjeux climatiques à l'échelle humaine, donc c'est-à-dire à notre quotidien. Et là, il y a George Marshall, donc qui est fondateur du réseau d'information sur le changement climatique, qui explique dans l'article en ces termes, donc il dit « La plupart des gens se fichent des ours polaires, ils n'en verront jamais, sauf peut-être aux zoos. Ils ne font pas partie de leur expérience. De même, on parle de ce que sera l'impact du réchauffement en 2100, mais on sera tous morts en 2100. Donc l'enjeu est donc de montrer que le changement climatique, c'est à propos de l'emploi, c'est à propos du bien-être, c'est à propos de la justice sociale, du système politique. Donc nous disons sauver la planète, mais c'est pourtant une erreur d'externaliser le problème. C'est pas la planète qu'il faut sauver, mais ce sont nos jardins, nos enfants, notre quartier, etc. Donc moi, je trouve ça effectivement très important de ramener ce problème d'environnement, vraiment, de se l'approprier et de voir mais quels sont en fait les impacts sur moi, ma vie, à moi. Donc lorsqu'on externalise le problème, la conscience humaine a tendance à désigner... en plus, il y a un autre risque, c'est que quand on externalise trop le problème, l'humain va désigner un bouc émissaire. Et ainsi, il va se déculpabiliser. Donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup « Oui, mais aux États-Unis, ils sont beaucoup plus pollueurs que nous dans leur quotidien. » Ou on va entendre aussi « De toute manière, c'est trop tard. » Et puis on peut rien y faire parce que c'est les politiques, c'est les grosses industries et tout ça. Donc par là aussi, le citoyen, il va se déposséder du problème. Il va se dire, de toute manière, moi, à mon échelle, je peux rien faire. Et donc le sentiment d'impuissance du citoyen est une perspective inquiétante. Et je pense qu'il y a une réflexion en fait à avoir là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour le premier article que je trouve est très intéressant. Et je vais juste enchaîner aussi sur le deuxième article qui là m'a beaucoup parlé. Parce qu'en fait, il parle d'un peu du militant convaincu qui cherche à changer tout le monde autour de lui. Donc moi, je me suis un peu reconnue en disant, donc on connaît tous ce militant acharné qui, convaincu d'avoir fait le bon choix, utilise beaucoup de temps et d'énergie à pousser son entourage à faire de même. Alors que pourtant, toutes les études de psychologie le disent, plus on essaie de changer quelqu'un, plus on augmente sa résistance au changement. Les émotions auxquelles on fait le plus souvent appel, la peur et la culpabilisation, ne sont pas des bases solides pour voir changer quelqu'un dans de bonnes conditions. Mais alors, faut-il abandonner toute velléité de faire changer, se féliciter de ses propres efforts et en rester là ? Pour dépasser cet écueil, il faut d'abord faire un retour sur soi, sur ses propres motivations et sur les avantages liés aux pratiques polluantes. Donc en fait, en gros, dans cet article, on essaie de montrer que le militant, s'il veut faire changer autour de lui, c'est pas en ayant déjà des propos négatifs. Donc ne pas en jugeant en fait la personne qui va prendre l'avion en lui disant oui mais c'est polluant, la personne qui va utiliser sa voiture tous les jours en disant moi j'utilise le vélo, tout ça, mais c'est plus faire avant d'avoir ces discours là très négatifs, c'est vraiment faire un retour sur soi en se posant la question mais pourquoi moi je vis mieux, pourquoi moi je suis plus heureuse, etc., en ayant des comportements qui sont en adéquation avec la sauvegarde de la planète, etc. Et ça dans mon quotidien. Donc c'est-à-dire pourquoi moi j'ai pas besoin de prendre l'avion pour voyager à l'autre bout du monde pour passer des bonnes vacances. Qu'est-ce que moi je recherche par exemple dans le voyage? Est-ce que c'est pas tout simplement me déstresser ou découvrir des personnes, passer plus de temps avec ma famille, etc. Des choses finalement très simples en fait. Et faire passer en fait ce message-là qui est tout simple de changer ses comportements pour sauver la planète c'est pas forcément engendrer de la frustration et de la sobriété mais un peu de l'austérité quoi,
la décroissance. Moi voilà. je vais enchaîner avec un petit article par rapport à ça. Enfin ce que tu dis c'est effectivement moi je me reconnais aussi quand tu parles de j'ai l'impression d'être militant et d'essayer de vouloir convaincre les gens autour de moi pour sauver la planète. Je pense que la clé c'est ce que tu dis au final dans ta conclusion, c'est l'explication, je pense, la formation, l'éducation en fait. Je pense qu'à partir du moment où on comprend déjà ce qu'on fait, les conséquences de ce qu'on fait, enfin, à chaque fois qu'on achète quelque chose, qu'on comprend quel impact ça peut avoir au niveau environnemental ou sociétal, on se sent mieux et on est plus enclin à changer notre comportement. Donc c'est à partir du moment où on n'a pas la connaissance en fait de l'information qu'effectivement on voit pas pourquoi on devrait changer. Mais si on sait que quand on achète un jean ou quand on achète des Nike, au bout de la planète, il y a plein de petits enfants qui qui sont exploités, etc. Enfin, je caricature, mais voilà. Donc, je veux dire, ça amène la réflexion, et c'est ça qui fait que, à mon avis, on va changer spontanément en fait notre comportement. Mais il faut d'abord avoir l'information, ça c'est vraiment la clé de tout, quoi.
Et puis être investi vraiment de ce problème-là, dire que je peux avoir un, je peux par mon changement de comportement avoir un impact sur sur l'amélioration de notre société, quoi.
Voilà, et on est tous bien convaincus que les petites gouttes font les grands fleuves, quoi.
Tout à fait.
J'avais plus retenu quelque chose dans ta conclusion, c'était que en fait, fallait recentrer ses priorités sur ce qui nous faisait vraiment plaisir et recentrer un petit peu tout ce qu'on est, enfin ce qu'on aime faire, ce qui nous est propre sur soi, et finalement peut-être qu'en recentrant ses priorités sur soi, on fait des choses pour la planète aussi.
Voilà, on se rend compte que l'essentiel n'est pas peut-être dans la consommation de biens chers et polluants, ça. Etc. Que finalement, l'essentiel, on peut le trouver juste à côté de chez nous, de manière très simple, de manière très économique et surtout de manière très respectueuse de notre environnement.
Alors j'enchaîne tout de suite, justement, on change pas trop d'idée, avec un article qui est écrit par Serge Latouche, qui est professeur émérite d'économie à l'université d'Orsay, qui est aussi objecteur de croissance. Et donc qui parle un petit peu de ce concept de décroissance ou de sobriété. Et c'est pas parce qu'on est décroissant ou qu'on prend la sobriété qu'on n'est pas heureux, en fait. Alors pourquoi prendrais-je le soin de la postérité, disait Marx. Est-ce que la postérité s'est préoccupée de moi? Effectivement, on peut penser que l'avenir ne vaut pas de se tracasser pour s'assurer qu'il advienne et qu'il vaut mieux en finir au plus vite avec le pétrole et les ressources naturelles plutôt que de s'empoisonner l'existence en se rationnant. Ce point de vue est assez répandu chez les élites et on le comprend, mais on le trouve aussi implicitement chez un grand nombre de nos contemporains. Ou bien, comme l'a écrit l'économiste Nicolas Georgescu Rogen, l'un des premiers à avoir théorisé sur la décroissance, peut-être le destin de l'homme est-il d'avoir une vie brève, mais fiévreuse, excitante et extravagante, plutôt qu'une existence longue, végétative et monotone. Certes, encore faudrait-il que la vie des modernes surconsommateurs soit vraiment excitante et que, à contrario, la sobriété soit incompatible avec le bonheur et même une certaine exubérance joyeuse. Et puis même, comme le dit très bien Richard Enberg, ce fut une fête formidable. La plupart d'entre nous, du moins ceux ayant vécu dans les pays industrialisés, n'ont pas connu la faim, ont apprécié l'eau chaude et froide au robinet, les machines à portée de main permettant de nous déplacer rapidement et pratiquement sans effort d'un endroit à l'autre, ou encore d'autres machines pour laver nos vêtements, nous divertir et nous informer, ainsi de suite. Et alors ? Aujourd'hui que nous avons épuisé la dot patrimoniale, devons-nous continuer à nous complaire jusqu'à la triste fin et entraîner l'essentiel du reste du monde dans la chute ? Ou alors faut-il reconnaître que la fête est finie, nettoyer après nous et préparer les lieux pour ceux qui viendront ensuite ? On peut aussi justifier l'incurie du futur par toutes sortes de raisons, pas forcément égoïstes. Si on pense, comme Schopenhauer, que la vie est une affaire qui ne couvre pas ses frais, c'est presque une forme d'altruisme que d'épargner à nos petits-enfants le mal de vivre. La voie de la décroissance repose sur un postulat inverse partagé par la plupart des cultures non occidentales. Pour mystérieuse qu'elle soit, la vie est un don merveilleux. Il est vrai que l'homme a la faculté de la transformer en un cadeau empoisonné, et depuis l'avènement du capitalisme, il ne s'en est pas privé. Dans ces conditions, la décroissance est un défi et un pari. Un défi aux croyances les mieux installées, parce que ce slogan constitue une insupportable provocation et un blasphème pour les adorateurs de la croissance. Un pari parce que rien n'est moins sûr que la réalisation pourtant nécessaire du projet choisi d'une société autonome de sobriété. Toutefois, le défi mérite d'être relevé et le pari d'être tenté. La voie de la décroissance est celle de la résistance, mais aussi celle de la dissidence face au rouleau compresseur de l'occidentalisation du monde et du totalitarisme rampant de la société de consommation mondialisée. Si les objecteurs de croissance prennent le maquis et, avec les Amérindiens, marchent sur le sentier de la guerre, ils explorent la construction d'une civilisation de sobriété choisie, alternative à l'impasse de la société de croissance. Ils opposent au terrorisme de la cosmocratie et de l'oligarchie politique et économique des moyens si possible pacifiques, non-violence, désobéissance civile, défection, boycott et bien sûr les armes de la critique. Voilà.
Moi, je vais enchaîner juste avant qu'on termine en donnant quand même quelques références, toujours dans cette réflexion-là, hein, de comment, enfin, par quelles actions, comment on peut changer le monde, entre guillemets. Parce qu'il y a un article très intéressant qui s'appelle « Changer le monde, oui, mais pas à l'issue de mon plein gré », sur un site qui s'appelle mondequibouge.be. Donc, c'est www.mondequibouge.be. Monde qui bouge, tout collé. Voilà, et un autre article également qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « Pourquoi le cerveau n'est-il pas vert ?» qui est sur le site www.humain-associé.org. Voilà, deux articles qui permettent de compléter la réflexion sur le sujet qu'on était en train d'aborder sur les changements de comportement. Et... Je vais laisser finir.
Oui, alors simplement, on a Xavier au téléphone donc, qui voudrait réagir un petit peu sur ce qui a été dit. Et puis ça terminera, je pense, l'émission avant les nouvelles du coin. Donc on va lui donner la parole. Il faut juste tenir le téléphone, ouais. Voilà. Alors Xavier, tu nous entends ? Alors non, on t'entend pas, il faut mettre le haut-parleur en fait. T'as mis le haut-parleur, voilà. Vas-y, tu peux parler ?
Oui, est-ce que vous m'entendez ?
Très bien, on t'entend très bien. Vas-y, alors on t'écoute.
Ok. Bonjour. Je voulais réagir très rapidement sur la première partie de l'émission, parce que malheureusement, les propos qui se sont tenus là à l'instant même, je les ai pas suivis. Mais par rapport à ce qui a été dit, notamment ce que Valérie avait dit sur cet article de mode et travaux qui fait beaucoup réagir. Hein. J'ai entendu que Sylvain avait réagi également. Voilà, je trouvais que c'était effectivement une pratique qui était limite choquante, parce qu'en fait, il y a quand même fallu pas mal de temps pour que les citoyens commencent à agir, à faire des petits gestes, etc. Et puis là, d'un seul coup, on leur explique, mais attention, là, tout ce que vous faites, regardez, moi, je vais vous prouver, en fait, que, non, c'est finalement pas bien, et que, regardez, il y a ça, il y a ça. Donc, finalement, plutôt que d'éclairer le citoyen et la citoyenne, hein, puisqu'il s'agit de magazine féminin, plutôt que de l'éclairer, de l'orienter, je trouve qu'on désoriente complètement. Donc, quelle est la réaction la plus naturelle ? Oh, moi, je faisais ça en pensant faire des gestes écologiques et finalement, on me dit que c'est pas bien. Moi, je pense que la réaction, malheureusement, plus naturelle, c'est de dire, si c'est comme ça, j'arrête tout, puisque finalement, je ne sais pas ce que je dois faire pour agir correctement. Donc, voilà, je trouvais que c'était quand même assez choquant ce genre d'article que j'avais parcouru moi aussi. J'avais jeté un petit coup d'œil, donc je partageais un peu l'avis de Valérie sur la question. Voilà, donc râler un petit peu plus hein, sur cet article. Je saute tout de suite de sujet parce que vous aviez enchaîné donc sur ce fameux autocollant Stop Pu et puis les petits soucis qui pouvaient découler du fait de la reposer, de plus recevoir les informations municipales ou régionales, etc. Donc effectivement, quand ça se passe comme ça, comme tu le disais Valérie, il faut faire remonter l'information aux municipalités et puis aux organismes qui distribuent ces informations. On peut peut-être pallier ce souci avec Internet, si on a Internet. Je pense que la plupart des collectivités mettent en ligne en fait le bulletin municipal ou le bulletin régional qu'on peut trouver en PDF sur les sites Internet. Hein. Donc à vérifier, mais moi je l'ai déjà constaté, je garantis pas que toutes les municipalités le fassent, mais je pense que ça peut se faire. Et puis, par rapport aussi, j'ai entendu, je saute d'un sujet à l'autre, hein, c'est Sylvain qui parlait de participer au recensement des écureuils. On peut faire pas mal de petites choses dans ce goût-là, en fait. On peut participer aussi au recensement des oiseaux de jardin qu'on voit en hiver. Et puis, il y a la revue La Hulotte, qui est une très bonne revue naturaliste, qui propose systématiquement de participer à des petites enquêtes comme ça. Par exemple, le dernier numéro sur le frelon d'Europe, il arrive dans votre boîte aux lettres avec une petite fiche, si vous avez observé un nid, etc. Donc, vous pouvez participer à ce recensement. Donc, voilà, on peut être un petit peu naturaliste, en forcément aller de l'autre côté de la planète en Amazonie pour rejoindre un petit peu ce qui avait été dit. Ça, je l'ai entreaperçu, j'ai un peu entendu sur les histoires de voyage. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu tout ce que...
Oui, sans aucun problème. Donc, on te remercie, Xavier. On dit donc un jour à nos auditeurs.
Voilà,
l'émission touche à sa fin. Voilà.
Et à bientôt.
D'accord.
Au revoir.
Et puis on vous laisse en compagnie donc des Nouvelles du Coin pour leur émission. On se retrouve donc dans 15 jours. N'hésitez pas à réécouter l'émission sur le blog donc de La Mauvaise Herbe, hein, audioblog Arte, La Mauvaise Herbe donc sur un moteur de recherche, et vous avez accès donc à l'ensemble des émissions qui ont été donc déjà enregistrées, ou au moins une bonne partie. Voilà, donc bonne semaine à tous. N'oubliez pas donc de rester et d'être éco-citoyen jusqu'à au moins dans 15 jours. Voilà, on se retrouve tous.